Chapitre 6 Vers la vallée du désespoir. Martial se trouvait dans un extrême embarras. Il ne comprit pas d'abord pourquoi l'Indien refusait d'un air aussi dégoûté les billets de banque qui faisaient prime sur tous les marchés du monde. « Il est fou !» se dit-il. Puis il réfléchit. Le nom de Bernard Dillot, le bandit qui avait tenté d'assassiner Frontenac, l'éclaira. Il se souvint qu'au Mexique, les faux monnayeurs, sauf dans les grandes villes, ont le champ à peu près libre. Il faut faire très attention quand on ne veut pas recevoir en paiement des piastres en plomb argenté, des dollars de cristal simplement doré et de faux billets de banque plus ou moins adroitement imités. Le désert de la Sonora, par sa proximité avec la frontière des États-Unis, est un terrain de choix pour les contrefacteurs des papiers d'été. Ils écoulent en Amérique les faux billets mexicains et au Mexique les fausses banknotes. Martial devina sans peine que Coyotepec avait dû payer un large tribut à ces bandits, mais il tenait à avoir quelques éclaircissements. Il se rapprocha de l'Indien qui fumait impassiblement sans paraître s'apercevoir de sa présence. « Les billets que je te donne sont bons, lui dit-il. Pourquoi n'en veux-tu pas ?»« Je ne puis les accepter, répliqua Coyotepec avec calme. Bernard Dillot m'en avait donné de pareil l'an dernier, en échange de mes bestiaux. J'ai été les porter à la ville pour acheter des cartouches, de la farine et des outils. C'est tout juste si on ne m'a pas mis en prison. « Mais les miens sont bons, répliqua Martial avec vivacité. Et si tu le désires, je t'accompagnerai jusqu'à la ville où je changerai les billets contre de beaux aigles d'or. La ville la plus proche est à 8 journées de marche, répliqua l'Indien avec entêtement. Je ne puis pas quitter mon hacienda en ce moment. Puis, tu sais, je tiens pas à être mis en prison. » Malgré tous les raisonnements de Martial, Coyotepec ne sortit pas de là. Les banknotes, vraies ou fausses, lui inspiraient une invincible répulsion. Martial ne savait comment sortir de cette impasse lorsqu'il songea à la petite boîte de poudre d'or que lui avait offerte son ami Frontenac. Il la tira de la poche de son veston, l'ouvrit et la mit sous le nez de l'Indien. « Et ça, lui dit-il, crois-tu que ce soit de la fausse monnaie ?» Coyotepec, avant de répondre, prit délicatement entre le pouce et l'index un grain de métal et le fit craquer sous ses dents. Sa physionomie s'éclaira. « Oh, c'est de l'or » murmura-t-il. « Ben, puisque tu as de l'or, pourquoi tout à l'heure m'offrais-tu de mauvais papiers ?» Malgré toute son éloquence, Martial eut grand-peine à démontrer à son hôte qu'il n'avait pas voulu le tromper. Celui-ci, tout en approuvant, gardait visiblement un reste de défiance. Enfin, on finit par s'entendre. La poudre d'or fut pesée dans une balance primitive dont les plateaux étaient formés de 2 calebasses et estimés approximativement. Avec des calculs qui durèrent plus d'une heure, car l'Indien comptait de mémoire et sur ses doigts, il fut convenu que, moyennant l'abandon de son or, Martial aurait droit à 1 mulet, qu'il pourrait choisir lui-même, à 10 livres de tasajo, à 1 gourde pleine de cania, à 1 vieille carabine et 12 cartouches. Il fut entendu qu'il partirait le lendemain matin et que son hôte, qui, au fond, était enchanté du marché qu'il venait de conclure, lui donnerait des renseignements sur la route à suivre. Jusqu'à plusieurs journées de marche d'ici, déclara l'Indien, je connais admirablement le pays. Quel que soit l'endroit où tu veuilles te rendre, tu ne pourras pas te tromper avec les renseignements que je te donnerai. » Alors c'est à merveille, je vais à la vallée du désespoir. Le visage de Coyotepec était devenu d'une pâleur cendrée, presque gris, ce qui est la façon de pâlir des hommes de la race rouge. « Dis-tu vrai ?» balbutia-t-il, incapable de cacher son émotion. « Mais t'as perdu l'esprit, tu cours à la mort !» Martial était impatienté. « Mais vous me dites toute la même chose !» s'écria-t-il avec véhémence. « Mais que peut-il y avoir d'extraordinaire dans cette vallée ? Apprends, ami, que je n'ai pas peur. Je suis un de ceux qui ont combattu pendant toute la Grande Guerre, et tu vois que j'en suis redevenu indemne. Je suis un homme du pays de France. » Coyotepec se recula avec un geste où il y avait de l'épouvante et de l'admiration. Au fond de ce désert, le bruit de la gigantesque bataille où des nations entières s'étaient entregorgées était arrivé jusqu'à lui. Des Américains étaient venus, une certaine année, lui acheter tous ses chevaux et les lui avaient payés en beaux dollars d'or. Enfin, un de ses fils, l'aîné, le plus brave, séduit par des recruteurs yankees, était parti pour le vieux continent et n'en avait jamais plus eu de ses nouvelles. « Tu es un homme très brave, dit-il. Et hier soir, quand tu t'es assis sous mon toit, j'ai vu tout de suite que tu n'étais pas un bandit, mais, crois-moi, ne tente pas l'impossible. De plus audacieux que toi, en vainement essayé de pénétrer ce mystère. Mais j'y réussirai, moi, déclara Martial avec une tranquillité qui fit impression sur l'Indien. Mais tu mourras. Chanito m'a dit la même chose. Alors j'y mourrai. Mais c'est donc impossible d'entrer dans cette vallée. Coyotepec paraissait très troublé. Il hésitait, cherchait ses mots. Je n'aime pas parler de cela, fit-il. Écoute pourtant. On a très aisément accès à la vallée. Mais oh, cela est malaisé à expliquer. Tous ceux qui ont voulu y entrer avec de mauvaises intentions contre celui qui l'habite n'ont jamais pu l'atteindre. Leurs ossements t'indiqueront la route que tu as à suivre. Martial ne put s'empêcher de songer au squelette qu'il avait trouvé la veille et dont la rencontre l'avait pour ainsi dire obligé à revenir sur ses pas. Ben, « Je ne te comprends pas, répliqua-t-il. Tu disais à l'instant que c'était très aisé. »« Oui, pour beaucoup, cela est vrai. Les hors-la-loi, les desperados. C'est peut-être de là que vient le nom de la vallée. Ils sont reçus sans difficulté. Le mauvais esprit qui règne leur fait bon accueil et rétribue largement leurs services. Seulement, la plupart ne reviennent jamais. » « Il en revient pourtant ?» demanda Martial, dont la curiosité était vivement excitée. L'Indien hocha la tête. « Oh, cela arrive, profondément mélancolique. Mais souvent malades, ils ont leur ceinture pleine de poudre d'or, mais ils meurent toujours, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, avant que le délai d'un an soit écoulé. » « Mais enfin, s'écria Martial, que leur a-t-on fait ? Pourquoi meurt-il ? » Ben, aucun d'entre eux n'a jamais osé le dire. Ils affirment au contraire que dans cette vallée maudite, qui est le royaume du démon, ils sont admirablement nourris, bien traités, ne travaillent guère. » La logique de Martial s'insurgeait contre ces racontars. Il ne put s'empêcher de déclarer, malgré le désir qu'il avait de ne pas vexer l'Indien, « Cela ne tient pas debout. Quand il commence à être envahi par cette mélancolie dont tu parles, Pourquoi ne s'en vont-ils pas? Ils peuvent pas. Ceux qui ont fait un pacte avec le maître de la vallée sont obligés d'y rester jusqu'à la fin de leur engagement. Puis, je crois, pour parler franchement, ajouta l'Indien en baissant la voix, que personne ne connaît la vérité. L'histoire de ceux qui ont fait un pacte avec l'esprit du mal est toujours la même. Il les attire avec sa poudre d'or, puis il les fait mourir et emporte leur âme. C'est ce que m'a très bien expliqué le révérend Padre Sebio, qui vient à la Sienna tous les ans. Et maintenant, Seigneur Francese, êtes-vous toujours décidé à pénétrer dans la vallée du désespoir ?
Plus que jamais, répliqua Martial impétueusement. Tout ce que tu viens de me raconter est exagéré et grossi par la peur. Le démon de la vallée n'est qu'un habile coquin, et je le démasquerai.
Coyote et Peck fit pieusement un signe de croix et murmura à demi-voix une prière à la Madone. Martial, contrairement à ce que l'on pourrait penser, était enthousiasmé par tout ce que venait de lui apprendre l'Indien. Il était parti à la recherche de l'ingénieur Wilcox par amour pour Rosie, la fille de celui-ci. Mais maintenant, son point de vue était changé. Il mettait son amour-propre à découvrir le secret de cette étonnante vallée. Il voulait réussir à tout prix à démasquer le prétendu démon.
« Le diable dont tu parles, affirma-t-il, je te le ramènerai à Mexico avec une chaîne autour du cou. »
Coyote Peck leva les bras au ciel, puis il secoua la tête avec une expression de physionomie qui indiquait clairement son admiration pour l'héroïque témérité de son hôte et en même temps le chagrin que lui causerait sa mort assurément inévitable.
« Mais tu ne sais donc pas, reprit-il, que c'est pas d'aujourd'hui que la vallée est maudite. Depuis plus de 100 ans, et même bien au-delà, les Indiens, aussi bien que les hommes blancs, la fuient avec terreur. Il n'est jamais arrivé que du mal à ceux qui y ont pénétré, et pourtant elle est riche en minerais d'or. Les Espagnols des temps anciens s'y étaient établis. Ils durent se retirer sans qu'on ait pu en connaître la raison. » Et il a fallu que le diable lui-même s'installât dans cet endroit pour s'emparer des riches filons qui le renferment.
Martial ne put s'empêcher de sourire. « Je te répète, fit-il, que je ramènerai le démon de la vallée au bout d'une chaîne. Tout ce que tu m'as dit ne m'effraie pas. Pourquoi ne serais-je pas l'homme envoyé de Dieu qui doit terrasser le démon ?» et le forcer à rentrer dans l'enfer où est sa place.
Bien d'autres avant toi ont essayé, murmura l'Indien, impressionné quand même par l'assurance de Martial.
Crois-tu donc, reprit ce dernier, que le diable puisse l'emporter sur la Vierge? Il arrive un moment où le ciel doit triompher de l'enfer.
Martial avait trouvé le point faible de son interlocuteur. Ce dernier ne sut que lui répondre. La dévotion superstitieuse qu'il portait à la Vierge ne lui permettait pas de douter qu'elle ne finît par triompher. Il fit un nouveau signe de croix.
« Que la Vierge soit bénie. Je souhaite de tout mon cœur que tu réussisses. Mais le démon est si malin, il y a tant d'années qu'il est installé là. »
Martial comprenait que l'Indien était prêt à lui révéler tout ce qu'il savait de la mystérieuse vallée, et cette enquête qu'il sentait sur le point d'aboutir l'intéressait passionnément. Il se recueillit un instant avant de poser une nouvelle question à Coyote Peck. « D'après toi, fit-il, il y aurait donc 2 siècles que le démon attire à lui les desperados ?
Mais non, il n'y a guère plus de 2 ans. Auparavant, la vallée avait mauvaise réputation. Personne ne s'y risquait, mais c'était pas comme aujourd'hui. Le démon n'y était pas encore installé à demeure. On savait seulement que l'air et l'eau, les plantes et les animaux ne ressemblaient en rien à ce que l'on voit ailleurs et avaient quelque chose de surnaturel. On dit encore aujourd'hui que les aigles et les vautours, quand ils passent au-dessus, gagnent à tire-d'aile les hauteurs du ciel et accélèrent leur vol, comme s'ils étaient frappés d'épouvante.
Martial n'ignorait pas combien il est difficile de tirer des Indiens des renseignements exacts. Leurs phrases les plus claires sont toujours pleines de réticence. Et il faut souvent leur répéter un grand nombre de fois la même question avant d'arriver à leur faire dire la vérité. Aussi, reprit-il avec insistance, « Mais tu ne m'as toujours pas dit pourquoi les Espagnols de l'ancien temps avaient abandonné la vallée. Peut-être que les eaux ou l'air y étaient malsains. » « C'est cela même, répondit précipitamment l'Indien. M'en souvenais plus. » Il y a si longtemps qu'on m'a raconté cela. Ils étaient tous atteints d'une maladie horrible qui ressemblait à la lèpre. C'est ce qui les a forcés à le fuir. Mais tu ne peux pas me dire quelle était cette maladie? C'est tout ce que je sais. Et l'Indien changea brusquement de conversation et se mit à parler des plantes et des arbres de la vallée. « Il y a, fit-il, des organos aussi gros que les colonnes de nos anciens temples, des palmiers énormes, des lauriers géants, comme on n'en voit pas dans le sud, et à côté de cela, des endroits où rien ne peut pousser. Les graines qui apportent le vent y germent rapidement, les plantes y grandissent à vue d'œil, mais tout à coup, les feuilles et les fleurs s'étiolent comme si elles étaient brûlées par un feu intérieur. » Malgré lui, Martial était profondément troublé par les révélations de l'Indien, qui certainement était de très bonne foi. Il continua patiemment à le questionner. « Voyons, reprit-il, tu m'as dit tout à l'heure qu'il n'y a que 2 ans que le démon habite la vallée. « C'est vrai, signor Francese, répondit Coyote Peck sans hésiter. Il n'y a pas plus de 2 ans. » Martial tressaillit. Il y avait juste 3 ans que l'ingénieur Wilcox était parti pour aller prendre possession des terrains qui lui étaient concédés par le gouvernement mexicain. « Mais, répliqua le jeune homme, il y a 3 ans, n'as-tu pas vu une grande caravane d'hommes blancs traverser le désert? Non, répondit l'Indien étonné. Il y a 30 ans que j'habite ici et aucune caravane d'hommes blancs ne s'est dirigée vers la vallée du désespoir. Cependant, répliqua le jeune homme, pourquoi les desperados soient si bien logés et si bien nourris? Il doit y avoir des magasins de vivres, des maisons. « Il y a tout cela, répondit l'Indien, de belles maisons de bois couvertes de métal. Est-ce qu'il y a de plus extraordinaire? Est-ce qui prouve bien que c'est là l'œuvre du diable? On n'a jamais vu personne apporter les matériaux nécessaires à la construction de ces maisons, ni aucun ouvrier venu pour travailler à les édifier. » Martial se disait qu'il y avait là un mystère beaucoup plus compliqué qu'il se l'était imaginé tout d'abord. Et il se demandait avec une sorte d'angoisse quel rôle le père de Rosie avait pu jouer dans cette étrange fantasmagorie. C'était à n'y rien comprendre. L'ingénieur adorait sa fille. Pour qu'il fût demeuré si longtemps sans donner de ses nouvelles, il fallait qu'il fût mort ou prisonnier.
Mort, mais tué par qui? Prisonnier, mais de qui?
Martial ne pouvait admettre un seul instant l'existence de l'être surnaturel que lui avait décrit de son mieux Coyote et Peck. Cependant, il s'avouait à lui-même que le récit de l'Indien l'avait profondément troublé, précisément par son invraisemblance et son illogisme. Maintenant, une autre pensée l'obsédait. Et si ce démon ou ce spectre, c'était M. Wilcox lui-même? Il demeurait perplexe. Il n'avait jamais vu le père de Rosie, la jeune fille qui vivait avec la liberté illimitée des mœurs américaines, s'était fiancée avec la certitude que son père approuverait entièrement son choix. Mais depuis, ce père, par une coïncidence bizarre, n'avait plus donné de ses nouvelles. Martial comprenait que l'aventure où il s'était engagé, il ne voulait pas se dire imprudent, car il adorait Rosie, loyale et belle, tout acquise à celui qu'elle aimait, devenait de plus en plus inquiétante. Mais il était décidé à aller jusqu'au bout. Bien mieux, il trouvait un charme passionnant à cette histoire romanesque et pleine d'intrigues, dont il était un des principaux héros, et qui peut-être finirait tragiquement. Maintenant, dit-il tout à coup à Coyote Peck, je ne te demande que de m'indiquer le chemin qui d'ici conduit à la vallée du désespoir.
Je le ferai, répondit gravement l'Indien, parce que tu es un homme courageux et aussi parce que tu es un ami de Chalito. Je te conduirai même aussi loin qu'il est permis de le faire à un chrétien, mais je croirais compromettre mon salut éternel si je m'approchais trop près de la vallée du démon.
Je te laisserai à l'endroit où se trouve le premier squelette.
Chapitre 7. Les portes de Porphyre. Le reste de la journée, Martial ne revit plus son hôte. Coyote Peck était sans doute parti soigner son bétail ou peut-être chasser les oiseaux d'eau qui devaient abonder dans un petit étang situé à quelques centaines de mètres en bas de la hacienda. Il fut confirmé dans cette opinion en entendant retentir une série de détonations qui venaient du côté de l'étang, d'où s'élevèrent presque aussitôt des vols d'oiseaux aquatiques. L'hacienda, silencieuse pendant la grande chaleur du milieu du jour, n'était gardée que par les trois indiennes et ses chiens féroces d'une race non cataloguée, et qui tenaient à la fois du coyote ou loup de prairie et des dogues importés autrefois par les Espagnols. Ces animaux semblaient doués d'un singulier instinct. Ils avaient compris que Martial était l'hôte de leur maître, mais peut-être avait-il pensé qu'il était depuis trop peu de temps à l'hacienda pour qu'on oubliât de le surveiller. Il n'aboyait pas contre notre héros, il n'essayait pas de le mordre, mais il le suivait obstinément, et il vit très bien que s'il avait voulu franchir, sans leur permission, la palissade de la ferme, il eût été immanquablement dévoré. Au moment où le soleil, devenu presque vertical au-dessus de l'horizon, rendait la sieste nécessaire, il alla se jeter sur son tas de paille de maïs et dormit à poing fermé. Mais les chiens ne l'avaient pas quitté. Ils s'étaient accroupis ou couchés en rond et formaient un demi-cercle en face de la porte. Si le dormeur, dans son sommeil, froissait la paille ou poussait un soupir, les chiens grognaient sourdement. On eût dit qu'ils n'attendaient qu'un ordre précis pour croquer à belles dents l'inconnu qu'ils avaient pris en surveillance. Bien reposé, Martial se leva, alluma un cigare que lui offrit une des petites indiennes, et tout en réfléchissant à sa singulière situation, inspecta les dépendances de la hacienda.
Les chiens, quand ils s'étaient levés, n'avaient pas aboyé, mais ils continuaient à le suivre à distance respectueuse, et chaque fois qu'il se rapprochait de l'entrée, il se plaçait de façon à lui barrer le passage. Il s'amusa fort de ce manège. Il comprit que les chiens avaient fini par partager la mentalité défiante de leur maître, qui, dans ce désert, à des centaines de kilomètres de toute habitation, devait avoir pour principe de ne se fier à personne. Il essaya de caresser ses animaux aux poils roussâtres, au museau allongé, mais chaque fois qu'il voulut passer la main sur leur dos, ils se retirèrent en grognant. Si singulier que cela puisse paraître, Martial commençait à trouver le temps long, en dépit de toutes les préoccupations, de toutes les suppositions bizarres qui lui travaillaient la cervelle. Il voulut lier conversation avec les trois indiennes, mais elles parlaient si mal l'espagnol, elles émaillaient leurs phrases de tant de vocables indiens qu'il était difficile de conserver verser longtemps avec elles. Puis leur mentalité était réduite à des idées d'une simplicité enfantine. Elles demandèrent au seigneur Francese si on trouvait beaucoup de poudre d'or dans son pays, si les bestiaux se vendaient cher et si les femmes étaient jalouses. Martial répondit de son mieux à ces questions, mais au bout de peu de temps, il trouva la conversation des indiennes assommante et il sortit fumer un autre cigare, toujours suivi de sa silencieuse escorte aux dents aiguës. Enfin, un peu avant le coucher du soleil, Coyotepec, ses frères et ses fils rentrèrent avec leurs bestiaux, qu'ils enfermèrent soigneusement dans le corral, après avoir abreuvé à une auge de bois qui se trouvait dans un coin de la cour. Les chiens, avec un instinct admirable, avaient compris sans doute que le retour de leur maître rendait leur surveillance inutile. Ils avaient cessé de suivre Martial et avaient regagné leur poste habituel au pied de la palissade. Cette soirée se passa de la même façon que la précédente. Le lendemain dès l'aube, Martial fut réveillé par son hôte, qui lui amenait le mulet choisi la veille, et qui lui remit les vivres et les armes dont ils étaient convenus. Coyotepec y ajouta même une outre remplie d'eau, qui n'avait pas été stipulée dans le marché, mais sans laquelle, par cette chaleur dévorante, il eût été impossible à Martial de se mettre en route. Après avoir fait ses adieux aux gens de l'hacienda, dont, somme toute, il n'avait eu qu'à se louer, notre héros partit avec l'Indien, qui trottait à ses côtés sur un cheval à demi sauvage, en fumant silencieusement. Ce ne fut pas sans un serrement de cœur que Martial laissa derrière lui la pauvre ferme du désert, où il avait trouvé une si cordiale hospitalité et où il ne reviendrait sans doute jamais plus. Guidé par Coyotepec, il refit en sens inverse à peu près le même chemin qu'il avait parcouru quelques jours auparavant. L'air était d'une pureté admirable, et les pics lointains de la Sierra se silhouettaient nettement sur le ciel d'un azur profond. On eût dit qu'on n'avait pour ainsi dire qu'à allonger la main pour les toucher. Mais Martial avait appris à ses dépens à se méfier des illusions d'optique si fréquentes dans les pays de montagne. Il n'ignorait pas que de nombreux kilomètres le séparaient encore de ces hautes cimes que l'extraordinaire limpidité de l'air faisait paraître toute proche. Au bout de 3 heures de marche, pendant lesquelles aucun incident remarquable ne se produisit, Martial et son guide arrivèrent à l'endroit où se trouvait le squelette. Là, Coyotepec arrêta net son cheval. « Adieu, dit-il à Martial d'une voix grave, je t'ai amené jusqu'ici, selon ma promesse.
Tu es toujours dans l'intention de pénétrer dans la vallée maudite.
Mais plus que jamais, répondit le jeune homme avec fermeté. Alors que Dieu et les saints te protègent.
Moi, je n'irai pas plus loin. D'ailleurs, tu ne cours pas le risque de t'égarer. Tu n'auras qu'à suivre cette chaîne de collines, après lesquelles tu verras une profonde vallée où il y a une source. Tu la traverseras, et bientôt tu te trouveras à l'entrée du défilé qui donne accès dans la vallée. Il est impossible que tu te trompes, car à droite ou à gauche de l'entrée, il y a deux rochers rouges comme du sang et hauts comme des tours d'église. Martial remarqua qu'en dépit de son impassibilité, l'Indien paraissait ému. Son visage tanné offrait la même impression de tristesse que le jeune homme avait déjà observée sur celui du brave Chalito lorsqu'ils s'étaient séparés. Évidemment, Coyote et Peck étaient persuadés que son hôte courait à une mort certaine, et malgré lui, cette tristesse de l'Indien l'impressionnait péniblement, mais il ne laissa rien voir de ce qu'il ressentait, et après une dernière poignée de main, les deux hommes se séparèrent. De nouveau, Martial se trouvait seul dans le désert, mais cette fois, il était bien reposé, muni de vivres, et fermement décidé à ne pas se laisser abattre par les pressentiments fâcheux qu'il ne pouvait s'empêcher d'éprouver. Pendant le restant de la matinée, il suivit fidèlement l'itinéraire que lui avait tracé l'Indien. Vers le milieu de la journée, un frugal repas et une longue sieste lui permirent de continuer son chemin jusqu'à la nuit close. Il campa au pied d'un monticule de sable, mais pour déjouer, s'il était possible, les entreprises des voleurs du désert, il eut soin de débarrasser son mulet du bas qu'il portait. Il le mit sous sa tête en guise d'oreiller. De plus, il entrava les pieds de l'animal de façon qu'il ne pût s'écarter. Dans un coin bien abrité, il avait posé l'outre pleine d'eau, qu'il regardait comme l'article le plus précieux de son bagage. Il dormit tout d'une traite et se réveilla le lendemain frais et dispos. Il constata avec une vive satisfaction qu'on ne lui avait rien volé, mais une déception imprévue l'attendait. L'outre que lui avaient donné Coyote et Peck, et qui, recousue en plusieurs endroits, devait servir depuis des années, avait laissé fuir par une fissure invisible presque toute l'eau qu'elle contenait. Martial se hâta de boire ce qui restait, et enfourcha sa monture à laquelle il avait accordé quelques gorgées du précieux liquide. Il se mit en route, assez mécontent de cette perte qui pouvait avoir pour lui de graves conséquences. Ce qui le rassurait, c'est qu'il ne devait pas être très loin de la vallée où l'Indien lui avait affirmé qu'il trouverait une source. Il y arriva à peu près à l'heure de la sieste, mais déjà, il avait beaucoup souffert de la soif et le manque d'eau lui causait des tortures intolérables. Large de plusieurs kilomètres, la vallée où il venait d'entrer offrait un sol uni et sablonneux où poussaient çà et là quelques mesquitos et quelques saules rabougris, mais il chercha vainement la source indiquée par l'Indien. Les vagues de sable se succédaient les unes aux autres avec une fatigante monotonie, et il sembla à Martial qu'il était impossible qu'il existât une goutte d'eau dans un pareil désert. De plus, il n'y avait dans cet endroit désolé aucune plante, aucun fruit qui puisse rafraîchir l'homme et sa monture, tous deux torturés par l'horrible fièvre de la soif. Il n'était pas loin de midi, et la chaleur était devenue si accablante que Martial dut interrompre ses recherches pour dormir quelques heures à l'ombre d'un rocher. L'inévitable sieste terminée, il se remit en route, mais le découragement commençait de nouveau à l'envahir.
Il ne se sentait pas la force de passer encore une journée sans eau, et il était persuadé qu'il n'en trouverait pas et que l'Indien l'avait trompé. Il était parvenu, mais au prix de quels efforts, aux deux tiers de la plaine sablonneuse, quand le mulet qui, la langue pendante, l'œil terne, semblait pouvoir à peine se soutenir sur ses jambes, se redressa tout à coup en poussant un hennissement. En même temps, Martial aperçut dans le lointain une douzaine d'animaux qu'il crut être des chiens ou des chacals et qui étaient en réalité des coyotes. Ils grattaient furieusement la terre de leurs pattes. Il remarqua aussi que près de ces animaux poussaient quelques saules nains, un peu plus verdoyants, un peu moins rabougris que ceux qu'il avait rencontrés jusque-là. Et si c'était là que se trouve la source, pensa-t-il. Comme si le mulet, aussi assoiffé que son maître, eût deviné la pensée de ce dernier, il reniflait bruyamment et recommençait à hennir. Ces symptômes étaient de bon augure. L'animal devait avoir deviné le voisinage de l'eau. Martial pressa le pas. À sa vue, les coyotes disparurent. À la place où ils avaient fouillé, il n'y avait pas de source, mais le sol paraissait légèrement humide. Et après avoir creusé lui-même quelque temps à l'aide de son couteau, il atteignit une nappe d'eau boueuse, sans doute ce qui restait de la source tarie par le soleil et absorbée par le sable, et il put boire à longs traits et abreuver sa monture. Il avait repris courage. La chance semblait tourner. En cherchant tout autour de lui, il découvrit le tronc d'un pin renversé par la foudre et il y trouva assez de résine pour boucher la fissure de son outre. Après avoir ainsi calfaté, il la remplit d'eau et s'assura qu'elle ne fuyait plus. Ce soir-là, il dîna d'excellent appétit d'un lambeau de tassarou grillé, arrosé de quelques gorgées de cette eau fangeuse qu'il trouvait exquise, pendant que sa monture dévorait avidement les feuilles des arbustes que le peu d'humidité qui y persistait avait fait pousser sur les bords de la source tarie. Il s'endormit, plein de confiance dans l'avenir, après avoir pris contre un vol possible les mêmes précautions que la veille. Il brûlait maintenant de pénétrer dans cette terrible vallée que tous ceux qui lui en avaient parlé lui avaient représentée comme un endroit extraordinaire. La fièvre de l'impatience l'empêcha de dormir, et bien avant que le soleil se fût montré derrière les cimes neigeuses, il était debout, prêt à partir. En 2 heures, il acheva la traversée de la plaine de sable. Il put alors constater que les renseignements que lui avait fournis Coyote Peck et qui corroborait ce de Chanito, était d'une rigoureuse exactitude. Il ne tarda pas, en effet, à apercevoir les 2 grands rochers rouges qui se trouvaient à l'entrée du défilé. C'étaient, comme il put s'en assurer plus tard, 2 blocs de porphyre d'une éclatante couleur de pourpre, de la variété la plus rare. En face de lui, une falaise taillée à pic et haute comme une cathédrale barrait l'horizon comme un mur. Martial ne put s'empêcher d'être ému. Il touchait donc au but de son voyage. Il allait connaître le secret de cette légendaire vallée et de l'être mystérieux qui y avait installé sa demeure. Avant de pénétrer dans l'étrange repère, il résolut de se reposer quelque temps et de réfléchir. Il n'était guère plus qu'à 50 pas des portes de porphyre, et il cherchait un endroit où il eût un peu d'ombre pour s'y asseoir, quand il aperçut presque à ses pieds un squelette humain aussi blanc, aussi poli que le premier qu'il avait rencontré. Il s'efforça de ne pas arrêter sa pensée sur cet objet macabre, mais malgré lui, ses regards ne pouvaient s'en détacher. « Mais Chadito dirait que c'est un second avertissement du destin, » songea-t-il. « Mais non, mais tant pis, je ne reculerai pas. » Cependant, cette rencontre avait réveillé sa prudence. Il cacha dans la tige d'une de ses hautes bottes le revolver qui lui restait et aussi la fiole de chloroforme qu'avaient oublié les voleurs de sa pharmacie, ne laissant voir que sa carabine qui ne lui était guère possible de dissimuler. Ses précautions prises, tenant son mulet par la bride, il marcha délibérément vers la muraille de rocher et franchit le seuil couleur de sang de la porte de Porphyre. Chapitre 8. Le maître de la vallée. Martial se trouvait maintenant dans un étroit et tortueux couloir. Deux personnes n'y auraient pu marcher le front, et les parois en étaient si hautes qu'il y faisait presque nuit, bien qu'il fût à peine 11 heures du matin. Le silence le plus profond régnait dans ce ténébreux corridor de rochers, qui était sans doute le lit de quelque ancien torrent, ou peut-être une fissure de la montagne, due à un soulèvement volcanique. Dans cet étroit défilé, un seul homme eût pu tenir tête à une armée. Martial s'expliquait maintenant que les bandits qui pullulent dans ce désert n'eussent pu jamais venir à bout du despote inconnu qui avait fait de la vallée son royaume. À mesure qu'il s'avançait, il s'aperçut que le mulet qui le suivait donnait des signes d'impatience et de terreur. Il renâclait, frappait du pied la terre, s'arrêtait à chaque pas pour ne continuer sa route qu'avec hésitation. Évidemment, l'animal pressentait quelque danger, et ce dernier avertissement venant après les autres fit sur Martial une grande impression. Les légendes des Indiens, leur racontard grossi par la peur, pouvaient être faux de point en point. Mais l'instinct de l'animal n'était pas sujet à caution. La répugnance qu'il mettait à pénétrer dans la vallée était une preuve certaine qu'il y avait là un péril. Mais lequel ? Se demandait anxieusement Martial, qui comprenait tout à coup que s'il voulut revenir sur ses pas, il n'eût pas pu le faire. Pour quelle raison ? Il ne savait pas se l'expliquer, mais il en était sûr. Le défilé, dont les parois se rejoignaient presque à leur sommet, ressemblait maintenant à ces cryptes qui s'étendent au-dessous de certaines cathédrales. Martial avançait toujours, mais son cœur bondissait dans sa poitrine, sa gorge se serrait, ses mouvements devenaient nerveux, et il sentait, malgré tout son courage, une brume de terreur envahir peu à peu son cerveau. En pénétrant dans le défilé, il avait passé la bride de son mulet dans son bras droit, et il avançait lentement, l'œil aux aguets, le doigt sur la détente de sa carabine. Il abandonna vite cette attitude, d'abord en raison du profond silence qui régnait dans le défilé, puis à cause de la résistance de plus en plus énergique que lui opposait la bête. Il supposait d'ailleurs que tant qu'il cheminerait dans ce boyau resserré, il n'aurait affaire à aucun ennemi. Il fut brutalement détrompé. Il était en train de tirer sur la bride du mulet qui, tremblant de tous ses membres, le poil hérissé et mouillé de sueur, refusait d'avancer, s'arc-boutait au sol de ses quatre sabots, quand tout à coup, le craquement d'une batterie d'armes à feu se fit entendre, si près de Martial qu'il retentit presque à son oreille. Il tourna la tête. Le canon d'une carabine était à quelques pouces de son front. En même temps, une voix assourdie et rauque lui cria « Bas les armes et haut les mains, ou tu es mort !» Martial obéit docilement. Il jeta son arme, lâcha la bride de son mulet et leva les bras en l'air. Sans bien s'en rendre compte, quoique naturellement il eût peur, il éprouvait un indicible soulagement en constatant qu'il n'avait affaire qu'à un danger matériel, le risque de recevoir une balle dans la tête, et ce risque il l'avait couru tant de fois au cours de la Grande Guerre qu'il n'en était pas très ému. Pendant quelques secondes, il demeura immobile, mais instinctivement, ses regards se portaient dans la direction de cette voix impérieuse et assourdie qui venait de le désarmer. Il s'aperçut alors que dans la paroi du couloir était creusée une niche qu'un avancement du roc très habilement disposé lui avait empêché de voir, bien qu'il y touchât presque. Dans cette niche se tenait un être dont le seul aspect plongea de nouveau Martial dans la stupeur et dans l'épouvante. Des pieds à la tête, il disparaissait sous un vêtement. Était-ce un vêtement ou une cuirasse qui brillait comme de la toile d'argent? La tête était protégée par un casque à peu près pareil pour la forme à ceux dont se servent les escrimeurs. La surface en était lisse, et à la place des yeux s'encastraient deux larges lentilles de cristal jaune, et il y avait un trou à peine perceptible à la place de la bouche. Une sorte de blouse tombait jusqu'aux genoux, les mains étaient gantées, les jambes protégées par des bottes de cette même toile d'argent qui enveloppait le nouveau venu de la tête aux pieds. Derrière cette étrange apparition, Martial aperçut deux chiens gigantesques, des chiens comme il n'en avait jamais vu. Ils étaient presque aussi grands qu'un cheval de moyenne taille, et ils appartenaient à cette race nouvellement créée par les bourgs et qui seule attaque sans peur les lions. Une légende veut que ces triples molosses, terribles molosses, descendent des chiens géants qu'un roi de l'Inde, Porus, offrit à l'empereur Alexandre le Grand. Martial, en présence d'un pareil adversaire, se sentait anéanti, réduit à rien, entièrement à la merci de l'homme au casque d'argent. Il en arrivait à se demander avec angoisse si les fables des Indiens, les terrifiants récits de Chanito et de Coyotepec, n'était pas l'expression de la pure vérité. Cependant, il avait confiance que derrière ces lentilles de cristal jaune, l'homme voilé le scrutait d'un regard aigu, le vrillait, pour ainsi dire, de ses ténébrantes prunelles. « Il va me flanquer une balle dans la tête, » songeait-il. Et les deux squelettes si blancs qu'ils ressemblaient à l'ivoire lui revenaient en mémoire avec leur crâne troué. Puis il se souvint de la façon inexplicable dont on lui avait volé ses vivres, ses armes, ses munitions, et il comprit que les Indiens n'avaient pas tort. Il sentait très nettement que sa vie en cette seconde tenait à un fil, et cette seconde lui parut longue comme les siècles des siècles. Tout à coup, le canon bronzé de l'arme qui touchait presque son front s'écarta. Martial comprit que, pour le moment du moins, il était sauvé. « Je suis le maître de la vallée !» dit la voix rauque et sourde qui s'échappa du casque d'argent. « Je ne sais pas ce que tu es venu faire ici, mais il est encore temps de te retirer. »
L'homme voilé avait parlé espagnol, mais avec un très fort accent anglais. « Je ne tiens pas à me retirer, » répliqua Martial avec tout son courage. « Je suis là désespéré. Je suis venu vers toi parce que j'ai besoin de vivre. » La voix reprit d'un accent plus doux. « C'est bien. Tu as raison, mais alors il faudra travailler pour moi. Je ne te demande pas qui tu es, ni d'où tu viens. » Si tu m'obéis, tu n'auras pas à t'en repentir. Bon, j'accepte, répondit Martial sans une seconde d'hésitation. L'homme voilé descendit de sa niche après avoir remis sa carabine en bandoulière, mais il tenait en main un énorme Browning et ses molosses le suivaient pas à pas, sans un aboiement, silencieux comme des ombres. Il prit la cabine de Martial, toujours immobile et bien résolu à voir ce qu'il adviendrait. Il s'empara des cartouches qu'il avait dans ses poches, de son couteau, d'un crayon et d'un carnet qu'il avait conservé, puis il lui ordonna de marcher devant lui. Ils cheminèrent en silence. Le défilé déboucha brusquement dans une vallée immense et verdoyante qu'encerclaient de toutes parts les inaccessibles sommets de la Sierra. Au passage, au paysage de désolation qu'il venait de traverser, Martial voyait tout à coup succéder une véritable oasis, un Éden caché au milieu des arides montagnes qui en défendaient l'accès. Comme le lui avait expliqué Coyote et Peck, les plus beaux arbres du Mexique poussaient là, avec une surprenante vigueur, lançaient des fusées de feuillage et de fleurs à des centaines de pieds au-dessus du sol. Des séquoias étageaient leur frondaison d'un vert sombre autour d'un tronc rougeâtre de 10 à 12 mètres de diamètre et paraissaient aussi vieux que la terre elle-même. Des cocotiers gigantesques pliaient sous le poids de leurs fruits. Des lataniers, des manguiers, des ceibas et un peu plus loin des grenadiers, des citronniers sauvages, des goyaviers formaient une véritable forêt dont les branches étaient reliées par un inextricable lacis de lianes d'où pendaient des fleurs aux parfums accablants. Parmi ces lianes, Martial reconnut le jalape aux corolles d'un bleu d'azur, le vanillier et de fabuleuses orchidées. La plupart de ces arbres, sauf quelques-uns, comme les séquoias, étaient chargés de fruits, et Martial pensa que la vallée avait dû être cultivée autrefois et que la prodigieuse forêt qu'il traversait avait été 2 ou 3 siècles auparavant un verger qui, sous une influence qui ne s'expliquait pas, avait pris des proportions grandioses. Il y avait même des lauriers qui étaient devenus des arbres de haute futaie. Toujours suivi de l'homme au casque d'argent, notre héros descendit un sentier bordé de fougères arborescentes et de grands mimosas et atteignit une clairière dont le sol était émaillé de capucines, de soucis et de dahlias sauvages. Il y avait encore des magnolias, des cactus, dont les feuilles étaient couvertes des insectes dont on retire la cochenille. Enfin, une foule de végétaux dont Martial ne connaissait pas les noms. Il remarqua entre autres une herbe couleur d'azur dont les Indiens tirent une belle teinture bleue. La clairière, une fois franchie, Martial et son énigmatique compagnon s'engagèrent de nouveau sous les voûtes de la futaie magique où régnait une fraîcheur embaumée. Puis, au bout d'une centaine de pas, le décor se modifia. La terre apparaissait maintenant couverte de feuilles à demi desséchées, comme si elle eût été ravagée récemment par un incendie.
Mais cependant, de jeunes pousses d'un vert clair jaillissaient des racines flétries. Et Martial pensa que cette partie de la vallée ne tarderait pas à être recouverte d'une végétation aussi opulente que la région qu'il venait de traverser. Mais quel ne fut pas son étonnement en apercevant un peu plus loin un groupe de maisons de bois couvertes de feuilles de zinc et protégées par de hautes palissades. Ces constructions paraissaient en excellent état. C'était, pour ainsi dire, un village qui avait surgi brusquement en plein désert. Dans les environs se voyaient des monceaux de mâches fer, des tas de planches, des amas de pierres, comme il s'en trouve aux abords de toutes les exploitations minières. Le maître de la vallée et son nouveau serviteur s'arrêtèrent au pied de la palissade, en face d'une épaisse porte de bois renforcée de plaques de tôle. L'homme tira une clé de sa poche, ouvrit la porte et conduisit Martial dans une pièce située au rez-de-chaussée d'une des maisons. Il y avait là une table massive, des escabeaux, quelques ustensiles de cuisine, un fourneau à pétrole et une masse de caisses vides qui avaient dû contenir des boîtes de conserve. Sans que le maître de la vallée leur eût donné aucun ordre, les deux chiens géants, auxquels un troisième était venu se joindre, étaient demeurés en dehors de la maison, et Martial remarqua qu'ils n'avaient poussé aucun aboiement depuis le moment où il les avait aperçus pour la première fois. Le silence de ces animaux avait quelque chose d'effrayant. « Vos chiens ne sont pas bruyants, » dit-il, cédant à un invincible besoin de dire quelque chose, de rompre l'inquiétant mutisme de l'inconnu. « Il y a d'excellentes raisons pour qu'ils n'aboient pas, » répondit celui-ci. « On leur a coupé la corde, les cordes vocales, et ils ne mordent jamais personne qu'une seule fois. »« Comment cela ?»« Ben, quand ils ont commencé de mordre quelqu'un, » il le dévore jusqu'au bout. » Martial se sentit froid dans le dos. « Vous comprenez, » reprit le maître de la vallée, « que dans la situation exceptionnelle où je me trouve, je suis tenu de prendre certaines précautions. » Et comme le jeune homme se taisait et consterné, il n'y a pas encore très longtemps, mes chiens ont croqué jusqu'aux os deux bandits du désert qui avaient réussi à pénétrer chez moi et qui croyaient pouvoir me dépouiller facilement. Cela n'a pas peu contribué d'ailleurs à augmenter la mauvaise réputation que je possède dans tout le pays. Ben, puis vous assurez que je suis bien gardé. Vloup, Rex et Black, mes trois dogs du Cap, sont mes seuls véritables amis, et je me séparerai d'eux à aucun prix. Ils ont une intelligence presque humaine. » Martial se souvint à ce moment du pauvre animal qui portait son bagage, et que, dans les mois que lui avait causé la première apparition du maître de la vallée, il avait complètement oublié. « J'espère, » dit-il humblement, « que vos chiens n'auront pas dévoré le mulet que j'ai laissé derrière moi. Rassurez-vous, votre monture est restée à l'entrée du bois. Je l'enverrai chercher et la ferai conduire aux écuries. Quand vous quitterez la vallée, vous pourrez la reprendre en meilleur état qu'elle n'était avant d'y arriver. » Et l'homme ajouta d'un ton de sourde colère, « quoi qu'on ait pu vous raconter, ici on ne vole personne. Vous pourrez vous en rendre compte par vous-même. » Mille questions se pressaient sur les lèvres de Martial, mais il n'osait en énoncer aucune. L'homme venait de placer sur la table, dans une assiette de fer, une superbe tranche de jambon et une bouteille de ce vin noir de Californie qui rappelle les crus riches en alcool du sud de l'Espagne et de l'Algérie. Il y ajouta du biscuit de mer et même un flacon de pickles.
« Je suppose, dit-il, que vous avez besoin de vous restaurer. Ce soir, vous mangerez mieux. »
Et par la porte entrouverte d'une pièce voisine qui servait sans doute de magasin, il montra à son hôte des planches où s'alignaient des boîtes de conserve, tandis que des jambons et des pièces de bœuf fumées se balançaient au plafond. Dans un coin, il y avait des tonneaux et des caisses de whisky. Martial était stupéfait. Malgré les assertions des Indiens, il ne s'attendait pas à trouver des approvisionnements aussi considérables et aussi variés dans ce coin isolé, séparé du reste du monde par un désert et des montagnes presque infranchissables. Son interlocuteur jouissait de sa surprise. «
Ici, déclara-t-il orgueilleusement, nous ne manquons de rien. Je possède un potager très bien fourni, une réserve de pommes de terre et de fruits secs. J'ai même un four et je mange du pain frais quand cela me plaît. »
Martial ne répondit pas. Il avait décidé de ne faire aucune question à son hôte et d'attendre que celui-ci lui donnât de lui-même les explications qu'il jugerait convenables. En attendant, il avait attaqué avec l'appétit d'un homme qui depuis longtemps n'a pas fait un bon repas la tranche de jambon placée devant lui. En même temps, il faisait tremper dans le godelet d'étain qu'il avait rempli de vin le dur biscuit. En un clin d'œil, il ne resta plus trace ni du jambon, ni du biscuit, ni du vin. Le maître de la vallée apporta alors une bouteille de whisky et un autre gobelet pour lui-même, et après avoir versé à boire, s'assit en face de son hôte, ou plutôt de son nouveau serviteur.
« Il est bon, dit-il à ce dernier, qu'avant tout je vous donne quelques explications. »
Et il parut à Martial que sa voix, toujours assourdie et rauque, avait une intonation plus cordiale qu'au début de leur connaissance.
« Il n'y a pas un mot de vrai dans les histoires qui courent sur mon compte, » reprit-il. « Les Indiens croient toutes les bourdes qu'on leur raconte, leur premier venu et le propagent en les amplifiant encore. Je ne suis ni un démon ni un fantôme, mais un homme comme un autre. Ben, si je suis habillé d'une façon qui vous paraît singulière, au fond voilà la cause de toutes les légendes. C'est que j'ai de sérieuses raisons pour cela. La principale, c'est que je souffre d'une maladie terrible qui m'a complètement défiguré. Plus tard, quand peut-être vous aurez raconté mon histoire, vous comprendrez que je ne puis agir autrement. »
En écoutant ces paroles, Martial se sentit soulagé d'un poids énorme. Tout ce qu'il y avait de surnaturel dans les récits qu'on lui avait faits sur la vallée maudite s'expliquait maintenant de la façon la plus simple. En se reportant à ce que lui avaient dit Coyote et Peck, il ne doutait pas que, de même que les premiers Espagnols, le maître de la vallée ne fût atteint de la lèpre. C'était sans doute cette même affreuse maladie qui devait exister à l'état endémique dans la vallée, dont mouraient les travailleurs qui y avaient longtemps séjourné. Il n'y avait plus là ni diablerie ni mystère. Le danger couru était cependant suffisamment redoutable, mais Martial se promit de l'éviter par une hygiène rigoureuse, et d'ailleurs de ne séjourner sur ce sol empoisonné qu'autant de temps qu'il le faudrait pour accomplir la mission dont l'avait chargé sa fiancée. et une question à laquelle il n'avait pas songé se présenta tout à coup à son esprit. « Combien de temps devrais-je travailler pour vous ?» demanda-t-il au maître de la vallée. « C'est un point que nous n'avons pas encore traité. » « Chez moi ?» lui répondit la même voix, à la fois assourdie et rauque. « On travaille jamais moins d'une année. Faudra-t-il vous signer un engagement ?»«
Inutile. Un honnête homme tient sa parole sans avoir besoin d'écrit et un coquin se moque d'une signature. »«
C'est bien, » murmura Martial, qui se sentait entièrement désarmé. « Je me mettrai au travail dès que vous le voudrez. »« Comment dois-je vous appeler ?»«
On m'appelle le maître de la vallée. Je n'ai pas d'autre nom. »« Et buvez encore un coup de whisky et venez avec moi. Je vais vous montrer ce que vous aurez à faire. »
Martial obéit sans mot dire. Et le maître et le serviteur, escortés par les chiens muets, se dirigèrent vers une partie de la vallée qui paraissait aussi stérile et aussi désolée que l'autre région était fertile et luxuriante. Martial, depuis qu'il se trouvait dans la vallée du désespoir, marchait de surprise en surprise. Il aperçut des machines rouillées qui lui parurent être des concasseurs et des pulvérisateurs d'un modèle très perfectionné, mais elles gisaient à l'abandon, près de gigantesques monceaux de scories et de gravats, et sans doute oubliées là, elles n'avaient pas dû servir depuis longtemps. Ils avaient atteint un endroit où la falaise, éventrée par quelque puissant explosif, présentait une profonde excavation de laquelle partaient des galeries qui s'enfonçaient au cœur de la montagne. À l'entrée de l'une d'elles apparaissaient les rails d'un chemin de fer à voie étroite qui reliait l'entrée de la mine à un grand hangar de bois situé à quelques centaines de mètres en arrière. Sur la voie stationnaient trois wagonnets remplis de cailloux à demi transparents, dont les uns étaient jaunes, d'autres d'un brun rougeâtre. Très ignorant en géologie, Martial comprit pourtant que c'était là le minerai, il n'eut pas pu dire lequel, qu'il allait être chargé d'extraire. Le maître de la vallée avait pris dans une niche du rocher deux lampes d'avis qu'il alluma. Il en remit une à Martial, auquel il donna aussi un pic et une pelle. Puis, tous deux, longeant les rails de la minuscule voie ferrée, s'enfoncèrent dans les ténèbres de la galerie. Ils y étaient à peine entrés que le bruit d'un outil qui frappait le roc, suivant un rythme monotone, parvint à leurs oreilles, et en même temps ils distinguèrent une lumière qui scintillait très loin dans les profondeurs obscures. Martial, à ce moment, ressentit une secrète angoisse. Cet étrange compagnon dont le vêtement de métal chatoyait à la lueur des lampes, ne le conduisait-il pas à la mort? Sortirait-il jamais vivant de cette sombre galerie? Le maître de la vallée, qui sans doute devinait ce qui se passait en lui, se hâta de le rassurer. « Vous allez voir un camarade dans votre travail, » expliqua-t-il. « Un brave Irlandais qui est ici de plusieurs semaines et qui pourra vous dire, lui, de quelle façon je traite les hommes que j'emploie. Vous constaterez par vous-même que je ne suis pas si terrible qu'on veut bien le dire. » D'ailleurs, le labeur n'a rien d'excessif. Il consiste à détacher les blocs de minerai du fond de la galerie et à les entasser dans les wagonnets. Je sais combien ce climat est accablant. Aussi, je n'exige pas de vous beaucoup d'heures de travail.
2 heures et demie ou 3 heures le matin. Autant l'après-midi, je n'en demande pas davantage.
Je ferai de mon mieux pour vous satisfaire, balbutia Martial, obligé de reconnaître que ses préventions étaient injustes et que le prétendu démon traitait assez humainement ceux qui l'employaient.
Mais c'est à n'y rien comprendre, se disait-il, à mesure que je crois avoir fait un pas vers la découverte de la vérité, le mystère semble devenir plus impénétrable et l'énigme plus insoluble. Malgré son accoutrement bizarre, cet homme n'a pas l'air animé de mauvaises intentions. Mais cependant, ils étaient arrivés tout au fond de la galerie, où un robuste gaillard vêtu d'une vieille veste de cuir et remarquable par une longue barbe rouge et une épaisse tignasse de la même couleur, abattait consciencieusement des blocs qu'il entassait ensuite dans un wagonnet.
« Voilà votre nouveau camarade, » dit le maître de la vallée. « Je suppose que vous vous entendrez bien. Et maintenant, allez, je vous laisse travailler. »
Cette présentation sommaire terminée, l'homme au casque d'argent, que Vloop, Rex et Black ne quittaient pas d'une semelle, faussa compagnie aux deux mineurs qui virent sa silhouette décroître jusqu'à ce qu'elle atteignît la tache de lumière qui marquait l'extrémité de la galerie. Quand il eut disparu, Martial et son nouveau camarade se regardèrent dans une muette interrogation. L'homme à la barbe rouge avait déposé son pic et essuyé son front trempé de sueur.
« Comment t'appelles-tu » demanda-t-il.
« Martial, » répondit le jeune homme.
« Quelle nation, anglais ?»«
Non, français. Et toi ?»
« Je suis Mike, l'Irlandais. Tu veux boire un coup pour faire connaissance ?»«
Volontiers, » répondit Martial, qui tenait à se mettre dans les bonnes grâces de son compagnon. Celui-ci tira d'un sac à provisions une bouteille de vin presque pleine et l'attendit poliment à son camarade, qui dut en boire au goulot une forte lampée. Après cet indispensable protocole, la glace était rompue et les deux hommes causèrent amicalement.
« Ben, j'espère qu'on sera de bons copains, nous deux, » fit Mike en tendant à Martial une main vaste et poilue. « Et donne-moi une poignée de main, c'est de bon cœur. »
Ce check-in, d'une fois échangé, ils étaient devenus définitivement bons amis.
« Tu sais, » fit Mike, qu'ici, malgré tout ce qu'on raconte, on est pas mal. Pas trop de fatigue, une paye supérieure. Et comme nourriture, tout ce qu'il y a de bien, de la viande à tous les repas, du vin à discrétion, du whisky et du tabac, comme on veut.
Et comment est-on payé ? Demanda Martial, très intéressé.
Bon, on a le choix entre la poudre d'or, les piastres du Mexique, et les banquenotes. Oh, la caisse est bonne.
Et toi, qu'est-ce que tu préfères ?
Mike eut un rire bruyant.
Ses petits yeux d'un bleu pâle étincelèrent sous ses sourcils en broussaille.
Moi, dit-il, je suis pas très malin. Je fais comme les Indiens qui aiment mieux la poudre d'or. Avec ça, on est sûr de pas être roulé.
L'Irlandais s'était interrompu brusquement.
« Maintenant, allez, grommela-t-il, assez causé, au travail. Moi, de mon genre, je suis honnête. Je ne veux voler ni le pain que je mange, ni l'argent que je gagne. »
Il reprit son pic et se remit à taper sur la roche avec un entrain admirable. Martial l'imita, et une heure ne s'était pas écoulée qu'ils avaient rempli un wagonnet qu'ils roulèrent jusqu'à l'ouverture de la galerie.